RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles aux grandes gueules chaque matin entre 9h et midi sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Autour de la table aujourd'hui pour débattre pendant 3h de l'actualité, Antoine Dierce, le consultant d'entreprise. Salut Antoine.
Salut Olivier, bonjour à tous.
Bienvenue Dunkerque.
Exactement.
Didier Giraud, notre éleveur de Saône-et-Loire. Salut Didier.
Salut Olivier, bonjour à la France profonde.
Et puis Flora Guebali est là. Bonjour Flora, entrepreneur dans la transition écologique.
Bonjour à tous.
Alors de quoi va-t-on parler tout à l'heure? C'est Aurore Berger, la ministre, qui sera face au GG. Elle porte notamment l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. A priori, ça doit entrer en vigueur en septembre. Oui, d'accord. Mais comment concrètement? Est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'il y a l'engagement et puis maintenant il y a la pratique. Et c'est souvent dans la pratique qu'en France, on a un petit peu de mal lorsqu'on fait voter des lois. Bref, on en parlera avec Aurore Berger tout à l'heure à 11h. Mais d'ici là, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé du côté d'Alès. On vient de franchir une nouvelle étape dans la guerre que mènent les narcotrafiquants contre la puissance publique, puisqu'on a été obligé d'exfiltrer un maire, le maire d'Alès, qui est dans le Gard, menacé par la DZ Mafia nouvelle génération, exfiltré par le RAID.
Un projet d'action violente pouvait être en préparation contre monsieur le maire d'Alès. Cette menace émanerait du groupuscule de la DZ Mafia. J'ai donc pris la décision de prévenir monsieur le maire d'Alès et de le dire que nous allions le placer sous protection, et l'exfiltrer de son domicile pour le mettre en lieu sûr. Ce sont des actes d'intimidation et on ne se laissera pas intimider. On continuera à mener cette lutte acharnée contre le narcotrafic.
D'accord, mais
on a lâché le terrain.
Il faut constater qu'on est obligé de cacher ce maire et sa famille pour le protéger des menaces. Alors d'abord, il y a eu 2 balles de 9 mm qui ont été envoyées
par la poste.
Ensuite, il y a eu des tags à son domicile où apparaît effectivement ce sigle DZNG, DZ Mafia, nouvelle génération. Ensuite, il y a eu la présence supposée d'une voiture piégée près de son domicile, dont l'existence, pour l'instant, n'a pas été confirmée. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a décidé d'exfiltrer en pleine nuit ce maire LR, qui s'appelle Christophe Rivinck, qui a 60 ans, lui et sa famille. On sait que les trafiquants de drogue tentent de s'implanter dans les villes moyennes, donc la DZ Mafia qui vient de Marseille tente de s'implanter plus au nord, dans le Gard, etc. Là, c'est la DZ Mafia nouvelle génération. On nous dit que c'est une branche de la DZ Mafia composée d'hommes plus jeunes que ceux du canal historique, plus jeunes, mais peut-être aussi plus violents et qui s'inspirent des codes criminels latino-américains. Est-ce que la guerre contre ces groupes de gangsters, de criminels, est perdue? La question est posée au 32-16 et je vous la pose, Antoine Dierce.
Moi, je suis attristé par l'attitude de Laurent Nunez. Je vous donne une petite anecdote personnelle. J'étais directeur de cabinet du maire de Villejuif il y a quelques années. Le maire de Villejuif, très courageux à l'époque, s'engage dans la lutte contre les trafiquants de drogue dans sa ville, de manière très volontaire. Les trafiquants de drogue brûlent la voiture du maire, brûlent les voitures de police municipale, mettent le feu au commissariat de police municipale. Et la réaction à l'époque, ça a été d'envoyer des dizaines de cars de CRS. Il y avait du bleu partout à Villejuif. La police, le préfet, le ministère de l'Intérieur avaient alors décidé de montrer qu'on n'abandonnait pas un maire qui faisait face au trafic de drogue. Et puis, force doit rester à la loi. Ils ont fouillé toutes les caves à l'époque. Il y a eu une grosse réaction policière. C'était la doctrine de l'époque.
Donc
c'était...
tu es en train de dire qu'au lieu d'exfiltrer le maire, il aurait fallu déployer les moyens.
C'était en quelle année?
Montrer les muscles.
C'était en 2020-2021. Vers 2020. Et donc là, en fait, on est en train d'abandonner le terrain. Avant, on aurait réagi en envoyant tous les CRS du pays à Alès en disant, vous allez voir, vous déclenchez la guerre, et ben vous allez la voir. On aurait fouillé toutes les caves, on aurait poursuivi tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On planque notre maire, on planque le maire de la ville.
Oui, c'est pas possible.
C'est pas possible comme réaction.
Didier Giraud.
Écoute, Ouais, j'avais pas pensé à ça, Antoine, mais t'as raison. Je tiens à saluer quand même ces gens qui sont courageux, quoi. Les élus locaux qui, dans les villes moyennes, luttent plutôt que de se coucher, parce qu'il y a plein d'endroits où les maires ils se couchent, quoi. Et je pense que dans les campagnes futures, il y aura plein d'endroits où les maires seront corrompus, où les maires seront à la botte de ce genre d'institution qu'est la DZ Mafia ou les autres d'en face là. Mais je sais pas s'il y avait d'autres moyens de faire parce que la reculade elle a pas commencé hier matin à Alès quoi. La reculade elle a commencé il y a 20 ans ou 30 ans et à un moment donné quand les quartiers sont abandonnés, le truc il est tellement gangréné que t'es obligé d'exfiltrer un maire de chez lui avec la BRI quoi.
Mais c'est un aveu d'échec, pardon. Hein.
Mais bien sûr que c'est un aveu d'échec, mais qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est que tout le monde se couche? Comment tu protèges ceux qui sont courageux à un moment donné?
Chaque bout de terrain lâché est perdu définitivement.
Sauf qu'à un moment donné, tu l'as dit, le terrain dans ces quartiers, enfin moi j'ai trafiqué un peu à l'Est, enfin j'ai
trafiqué.
Ouais,
attention à ce que tu dis. Ouais,
la Didier Mafia.
Non, j'ai emmené de la viande quand je faisais de la vente directe autour d'Alès et tu sentais qu'il y avait des quartiers où c'était pas super quoi. Et à un moment donné dans ces endroits-là quand la reculade elle est faite pour reconquérir le terrain, il faut que le sang coule quoi. Il faut que le sang coule et à un moment donné, est-ce que l'opinion publique est capable d'assumer que en France, on a les moyens de reconquérir le terrain, mais ça va mal se passer, quoi. Ça va mal se passer et il va falloir que le sang coule. L'opinion publique est capable d'assumer ça? J'en suis pas sûr. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait plein de villes moyennes où le maire, il soit pas aussi courageux que ce maire LR et il se couche.
Mais voilà. L'opinion publique, elle attend de la fermeté. Je pense qu'elle attend avant tout de la fermeté contre ces trafiquants.
Eh ben, on en reparle quand ils feront ce qu'a dit Antoine et puis qu'il y aura des morts dans les caves. On en reparle, Olivier.
Je rappellerai quand même que Amine Kessassi, qui est adjoint à la mairie de Marseille, ses deux frères ont été tués par les narcotrafiquants et qui vit sous protection policière. Je rappelle que le maire de Montpellier, qui sera avec nous, monsieur Delafosse, maire socialiste, qui est courageux aussi, qui se bat, il est également sous menacé. Il a un bouton d'alerte. Il nous l'expliquera. Il a un bouton d'alerte qui le relie à la police à tout moment si jamais il se passe un truc. Bon, voilà, donc on en est là et Delafosse sera avec nous.
On n'a jamais eu un élu notoire assassiné, mais.
Oui, mais enfin, faut pas attendre ça. Flora Guevalli, on s'enfonce chaque jour un peu plus.
Alors, déjà, on s'enfonce chaque jour un peu plus, mais surtout, une actualité comme ça, elle doit être à la une de tous les journaux de la semaine, dans le sens où quand on menace un élu de la République, c'est que la République est tout entière est menacée et que la République peut tomber. Et aujourd'hui, je sais que dans le milieu du rap, il y a beaucoup de rappeurs qui sont menacés et eux, ils se font protéger par d'autres mafias. Ils se font pas protéger par la police. Ça aussi, qu'est-ce que ça dit de notre capacité républicaine? Ça en dit beaucoup parce que si on choisit, alors un maire, il va pas choisir une autre mafia parce que on serait vraiment très très loin. En revanche, quand des rappeurs choisissent d'autres mafias pour répondre à cette mafia, ça veut dire que le signal d'alerte est très grave et que les institutions. Didier a dit la DZ Mafia c'est une institution particulière. Ça devrait pas être une institution, c'est déjà là qu'il y a un gros problème.
C'est devenu.
Et c'est ça, voilà, oui, mais c'est ça le cœur du sujet pour moi, c'est-à-dire.
C'est une organisation avec énormément d'argent à la clé parce que c'est.
Ça, oui, mais et énormément de pouvoir.
Des moyens.
Et énormément de pouvoir et surtout. Qui n'a plus peur de s'en prendre à la République et aux forces de l'ordre. Et donc aujourd'hui, quand on menace directement un maire, ça veut dire de toute façon, il nous arrivera rien et on n'a pas peur.
D'impunité.
Au même titre que aller fusiller dans la rue le petit frère de Amine Kessassi, qui était un jeune homme, il faut lui rendre hommage, Mehdi Kessassi, dès qu'on en a l'occasion, c'était un jeune garçon de 20 ans qui préparait les concours pour rentrer dans la police. Le fait qu'il se gêne pas pour tirer sur un jeune dans la rue qui avec une affaire qui pourrait être médiatisée, ça leur fait pas peur, sachant que Amine Kessassi était déjà médiatisé, mais que ça leur fasse pas peur que leur affaire soit et médiatisée et prise en main par le monde politique, c'est très grave.
Alors Wallace est avec nous, 32-16. Bonjour Wallace, vous nous appelez de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Ça vous fait réagir cette histoire de DZ Mafia et de ce maire à Alès, obligé d'être exfiltré par les hommes du RAID?
Ouais, bah je suis ça déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques jours là, parce qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Il y en a marre de voir ça tout le temps et de voir que ces organisations mafieuses s'implantent en France sans qu'on puisse lever le petit doigt ou sans que le gouvernement n'ose lever le petit doigt. Je veux dire, qu'est-ce qui
se passe? Le gouvernement entend des choses. Souvenez-vous, ouais, Gérald Darmanin, quand il était à l'intérieur, il était assez offensif avec les opérations XXL.
Ils vont faire une matinée ou une journée comme ça dans une cité pour aller faire le nettoyage et derrière c'est fini, quoi. Je veux dire, là il faut en arriver à œil pour œil, dent pour dent. Je veux dire, les mecs ils menacent des gens et ils vont tuer des gens, et ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on déploie et on va en arriver, et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être d'accord avec moi, on arrive à en déployer l'armée, quoi. Et puis voilà, et puis on n'en parle plus, et il y a une malversation qui se fait. Je veux dire, ils tournent en ce moment les policiers, les militaires là pour l'opération qu'on s'appelle de maintien Sentinelle. D'ordre. Voilà. Et ben voilà quoi. Je veux dire, ils tombent là-dessus. Il y a un assassinat qui est devant eux. Et ben ils sortent le gun et ils tirent. On n'en parle plus.
Oui, le problème c'est que voilà, s'il y a énormément d'argent à la clé, le trafic de drogue ne cesse de se développer. Il se démocratise. La cocaïne maintenant est accessible par plus facilement qu'avant. Le problème d'ailleurs européen.
Non mais le vrai problème c'est le ruissellement de tout cet argent dans ces quartiers-là. Il est là le vrai problème. Parce que qu'est-ce qui se passe si vraiment on veut éradiquer le problème? C'est tous ceux qui vivent de ça, ils vivent de quoi après, quoi? Enfin, je pense que les politiques sont emmerdés avec ça, quoi.
Voilà. La première solution, il a raison.
J'aime les solutions, mais je pense que le politique n'arrive pas à trancher parce que il se dit, on va faire péter la cocotte minute des quartiers si on y va franco là-dessus. Je crois qu'il y a une vraie réticence des politiques.
D'où
quoi.
Le fait que il y a longtemps déjà, en 2018, Jean-Louis Borloo a présenté un plan banlieue qui permettait de légaliser le cannabis et d'avoir une solution et de financement et d'emploi dans les quartiers, sauf que Emmanuel Macron a trouvé bon de le jeter à la poubelle.
Ouais,
donc non, mais en fait, à un moment donné, c'est des décisions politiques. Donc soit les politiques prennent des mesures pour sortir. Enfin, il y a des problèmes, il y a des solutions. Soit les politiques décident d'agir, soit les politiques décident de ne pas agir. Là, en l'occurrence, ça fait 10 ans bientôt qu'on est gouverné par Emmanuel Macron, qui a décidé de jeter un plan banlieue qui avait été proposé à la poubelle. Ce plan, il aurait dû être discuté. Certainement qu'il avait des points positifs, des points négatifs. Il y a un débat. On a des institutions, des vraies institutions. On a un Parlement, on a un CESE, on a de quoi discuter, on a de quoi mobiliser la société civile qui a des solutions aussi, puisqu'il y a plein d'associations qui travaillent dans les quartiers. Ben non, on a préféré ne pas agir. Et 2018, aujourd'hui, c'était pas il y a l'année dernière, hein, c'était il y a bientôt 10 ans.
Moi, je vois pas le lien entre le manque d'argent et le fait de devenir un dealer.
Non, moi, c'est pas ça que j'ai dit, Antoine.
Non, mais je pense à ce que
vraiment, tu éradiques le trafic de drogue et plutôt de cannabis d'ailleurs, je pense que tu fous le feu dans plein d'endroits.
Alors,
en France. Et ça, les politiques sont pas prêts à l'assumer. Voilà, c'est tout ce que je dis.
Depuis
l'inaction des politiques, la marée monte, et nous, le problème, on va arriver en milieu rural.
Reconnaissez, pour aller un peu dans le sens de Flora, je sais pas si c'est la solution, la dépénalisation, mais que cette guerre que l'on mène, pour l'instant, elle est perdue. On met beaucoup d'argent, on mobilise beaucoup de forces de l'ordre, et finalement aujourd'hui on est obligé d'exfiltrer un maire, donc pour l'instant la guerre est perdue. On l'amène pas suffisamment, ou est-ce qu'il faut trouver une autre stratégie?
Pour répondre juste sur le lien entre l'argent et le deal, moi je le vois très bien, puisque à 10-12 ans vous pouvez gagner 600 euros par jour. Qu'est-ce juste en étant assis sur une chaise juste en étant assis sur une chaise et en criant quand il y a la police qui arrive.
600 euros par jour,
c'est 600 euros par jour. C'est écrit
par non.
C'est déjà beaucoup, 600 euros par jour. Donc quand vous avez 10-12 ans, vous êtes mineur, on vous propose 600 euros par jour.
Il y a aussi peut-être un problème de la justice.
Vous savez, c'est la même
aussi.
Histoire que l'affaire Samuel Paty, qui se fait dénoncer par des ados à qui on donne une liasse de billets et qui disent pour dire oui c'est lui. Bon bah c'est de l'inconséquence.
Oui mais Flora,
du terrorisme.
Je suis d'accord. Flora, il y a aussi
des enfants.
à travailler sur la justice des mineurs. Peut-être que la réponse aussi apportée à ça n'est pas suffisante du côté de la justice. Non,
mais... Moi, je veux être très clair. Si on amène la légalisation du cannabis comme solution à ça, en fait, c'est qu'on se trompe. C'est que c'est une mafia. La mafia, elle va sur tous les business lucratifs. Et si c'est plus le cannabis qui est lucratif demain, ils trouveront autre chose. Et ça sert par ailleurs à financer le terrorisme qui a tué des Français, ces mafias-là. Donc, pardon, mais n'amenons pas la légalisation du cannabis.
Que pour l'instant, ça fonctionne pas.
J'y viens. Nous n'avons toujours pas basculé en mode lutte anti-mafia. L'Italie a connu la mafia.
Oui.
Et il y a eu des lois anti-mafia, des juges anti-mafia, il y a eu des équipes d'intervention de police anti-mafia. Et nous, on n'a toujours pas ça. On n'a toujours pas l'arsenal judiciaire et policier. Notre auditeur qui voulait, comme moi, qu'on soit beaucoup plus réactif, mais
on
ça passe d'abord.
Quand même. On a un parquet. On a un parquet qui s'occupe des
Olivier. Résultat. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de voir le résultat.
Narcotrafic. Mais en alors réalité, qu'en fait, on devrait parler de mafia.
Il faut des textes de loi qui soient spécifiquement liés à la mafia, au trafic de drogue, et qu'on ait des juridictions d'exception, des lois beaucoup plus contraignantes. Dès que le petit dealer ou le petit guetteur de 13 ans, on le sorte très vite du système. Sinon, c'est trop facile. Tu prends tes 100, 200 euros.
Et puis, du coup, moi, je suis inquiet dans la priorité qu'on y met. Enfin, tu vois, on est un mois et demi derrière l'affaire Liliana. Et je pense que toute la justice a mis beaucoup d'énergie sur les plaintes pour les violeurs de mineurs. On en est où dans l'avancement des dossiers mafia, trafic de drogue? Parce que je pense que c'est un éternel balancier.
Chaque jour,
dans les priorités que donnent les politiques à la justice. Et je pense que quand on a découvert comment on était en retard sur les affaires de mœurs au moment de l'affaire Liliana, je pense que aujourd'hui, on a pris du retard sur les affaires de trafic de drogue. C'est évident.
Très certainement.
Évident. Ouais. Et t'as raison, faut qu'on arrête de parler de narcotrafic et de deal et tout ça. C'est une mafia qui, si on l'éradique là-dessus, basculera sur autre chose.
Eux-mêmes, ça s'appelle.
Ils se donnent le nom.
Voilà, ça s'appelle mafia. Donc, merci Wallace d'avoir appelé au 32-16 depuis Courbevoie. Dans un instant, Sam, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait désormais, puisqu'on est obligé de dire à maire de quitter sa propre ville pour se protéger des groupes mafieux. Est-ce qu'on est en train de perdre le combat? Est-ce que la France se mexicanise? C'est un terme qu'on entend souvent. Pas à vous de réagir au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Série Narcos.
Narcos, bien sûr.
Voilà. Pour illustrer ce qui se passe du côté de Alès, ce maire qui a été obligé d'être exfiltré par le RAID parce qu'il est menacé directement par les mafieux de la drogue, la DZN Mafia, nouvelle génération. C'est Laurent Nunez lui-même, le ministre intérieur, qui a annoncé ce qui s'est passé. Donc ce maire, Christophe Rivinck, il n'est plus dans sa ville.
C'est
il
fou.
Est caché quelque part avec sa famille. Nous sommes avec le maire de Montpellier, monsieur Delafosse. Bonjour, merci
Bonjour.
D'être en direct ce matin sur RMC dans les grandes gueules. Vous-même, vous subissez des menaces. Vous-même, vous avez un bouton d'alerte pour si jamais ces menaces se font plus précises, c'est ça?
Oui, exactement. Ça s'est produit. Moi, j'ai fait expulser d'un logement social quelqu'un qui avait été condamné pour trafic de drogue, pour deal. Et à l'issue de cette expulsion, j'ai fait l'objet de menaces. Et donc, le préfet de l'Hérault de l'époque m'a attribué ce bouton d'alerte, voilà, pour pouvoir éventuellement être connecté directement avec les forces de sécurité. Mais ce qu'arrive à notre collègue maire Christophe Rivinck, que je veux soutenir, que l'on doit soutenir, c'est qu'on voit bien que le phénomène du narcotrafic monte crescendo dans notre pays. À Nîmes, un enfant de 10 ans a été victime d'une balle perdue d'un règlement de compte. Le frère d'Amine Kessassi a été lâchement assassiné. Et aujourd'hui, grâce au RAID, et dont il faut saluer l'engagement, un maire a été exfiltré de son domicile pour le protéger. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce phénomène du narcotrafic est en train de menacer profondément la cohésion de notre société. Moi, mais, j'appelle...
Moi, monsieur de la Fosse, j'ai une question. Oui. Est-ce que, du coup, de médiatiser ces affaires, ça ne fait pas des élus des cibles, en fait? Et est-ce que Nunes, il a bien fait de nous expliquer à tous ce matin qu'ils ont exfiltré le maire d'Alès? Est-ce que, comme dans ces affaires-là, la discrétion aurait pas été mieux, quoi?
Mais monsieur, moi j'espère, les élus, ils doivent faire preuve de courage. C'est le cas de Christophe Rivac, face au narcotrafic. Et moi j'espère que ça va provoquer un électrochoc dans la société, dans la mobilisation face à ce fléau. Et aujourd'hui, c'est les élus de la République. Demain, ça peut être des magistrats qui enquêtent. Donc, il faut qu'aujourd'hui, il y a une urgence républicaine. On aimerait parler d'autre chose. On aimerait s'occuper d'autres sujets. Mais il y a une réalité.
Il peut y avoir deux réactions de la part des élus. Il peut y avoir des élus effectivement courageux comme vous, comme le maire d'Alès, qui disent non au narcotrafic.
Et puis on peut aussi avoir des élus qui
acceptent la corruption, qui acceptent de fermer les yeux. Parce que vous avez raconté, Mickaël de la Fosse, moi ça m'a marqué. Vous avez raconté que lors des dernières élections municipales, certains trafiquants de drogue venaient devant les bureaux de vote pour dissuader les électeurs de voter pour vous. Donc on voit bien la pression qui s'exerce. Et malheureusement, on peut tomber sur des élus qui cèdent à cette pression.
Et donc, il faut la dénoncer. J'espère, sur le cas de Montpellier, que l'action de l'autorité judiciaire aboutira. Mais c'était la mise en garde du président des comptes de campagne qui avait dit « La grande menace qui pèse sur les élections municipales, c'est l'influence que cherchent à exercer les narcotrafiquants. » On a cette alerte. Hier, on a une alerte qui est, à mon sens, majeur et qui nécessite qu'on prenne la mesure de ce phénomène. Le frère d'Amin Kessassi assassiné, qui est un garçon d'un courage extraordinaire, un maire que le RAID doit exfiltrer. Donc, ce narcotrafic, c'est pas un folklore dans le pays, c'est une réalité qui menace.
Mais justement, monsieur le maire, moi j'admire le courage de ces élus comme vous qui tenez bon face au narcotrafic, mais je pense que vous attendiez plutôt un soutien plutôt que d'imaginer qu'un de vos collègues maires est exfiltré. Moi j'imagine plutôt que dès qu'un maire est en difficulté, le ministre de l'Intérieur dépêche de nombreuses forces de l'ordre pour tenir le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un renoncement d'avoir exfiltré ce maire?
Je ne me prononcerai. Je pense qu'ils ont cherché à le protéger et je ne mettrai pas en cause l'action de Monsieur Nunes là-dessus. Heureusement, peut-être le pire a été évité. Ça sera dit. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une obligation de moyens pour l'autorité judiciaire. Quand aujourd'hui, il faut s'attaquer au réseau, que disent les procureurs? Ils disent mais il nous faut plus de moyens. C'est une mobilisation de moyens de la part de l'éducation nationale. Les choufs et les mules, ce sont des mineurs.
Ils ont quitté l'école depuis bien longtemps.
Et oui, et donc, le pays de Victor Hugo et la protection de la jeunesse, et donc qui deviennent aujourd'hui ces bras armés. Et puis,
ce discours, il est un peu faible face à la mafia, monsieur le maire.
Eh bien, il faut que la République soit forte.
Oui, mais justement, une mesure concrète, monsieur de la Fosse, au-delà, effectivement, des discours, la dénonciation, une mesure qu'il faudrait mettre en place, qu'il manque dans l'arsenal à disposition de la justice.
Je vais vous le dire. Une mesure, je peux vous en donner. Je pense que c'est une question de mobilisation de tous et de priorité. Je pense qu'on doit se dire pourquoi des enfants qui ont moins de 16 ans ne sont pas à l'école et sont charbonneurs. On doit se dire comment, dans notre pays, on fait tomber un certain nombre de réseaux, donc on donne davantage de moyens à la justice. Quand est-ce qu'on dit que la consommation de la cocaïne est un problème aussi de santé publique et que le consommateur mesure les risques? Et que dit le ministère de la Santé? Comment on donne plus de pouvoir aux maires pour lutter contre les commerces de blanchiment, certaines épiceries les nuits, anglerie? Moi, je dois, avec mes moyens...
Vous avez assez de moyens, vous, en tant que maire?
Mais pas du tout. Aujourd'hui, quand vous êtes maire, vous pouvez empêcher la construction d'une grande surface en périphérie de votre ville. Par contre, quand vous êtes maire et que vous voyez des épiceries nuit pullulées, eh bien là, vous vous heurtez à la liberté du commerce. Donc ces épiceries où les types viennent avec de l'argent liquide, menacer des gens, rachètent les bails, et ensuite c'est ouvert 24-24 et ça pourrit la vie des habitants, eh bien là, vous devez trouver des stratagèmes. Moi, par exemple, je mets du matériel antiterroriste, vous savez, des blocs en béton, comme Karim Bouamram a fait face à Master Poulet. J'ai dû essayer d'exproprier, donc utiliser des procédures juridiques. Moi, je demande, par exemple, à ce que les maires puissent donner leur avis sur l'ouverture ou pas des commerces. Mmh. Voilà. Et donc,
c'est une façon de réguler. Tous,
mais oui, et de ne pas laisser en toute impunité les narcotrafiquants tenir leur activité. Et je le dis avec beaucoup de force, je pense que nous sommes sur un phénomène très inquiétant et nous venons de franchir un seuil, et c'est pas une mesure, c'est la mobilisation de tous, les maires bien sûr, mais aussi l'autorité judiciaire, l'éducation nationale, la santé. Enfin, c'est, en Hollande, ce phénomène, le narcotrafic, a conduit des maires à démissionner parce qu'ils vivaient sous la peur. Ah, oui. C'est ça la réalité.
Merci, monsieur Delafosse, maire de Montpellier, d'avoir été en
direct avec nous dans les grandes gueules.
Pour raconter-vous ce que vous vivez également avec cette pression donc des narcotrafiquants dans votre propre ville. On va retourner à Alès avec Thierry. Thierry, il habite à Alès dans le Gard. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Racontez-nous pourquoi tout d'un coup Alès bascule dans la drogue et dans le trafic.
Alors, ce point de deal a toujours existé, ça fait une trentaine d'années, mais les policiers laissaient faire un petit peu, et puis là, il y a 3 ans, est venue s'installer la DZ Mafia, et là, ça a tourné un peu au fiasco, quoi.
C'est plus les mêmes méthodes, quoi.
Plus du tout. On a eu 10 décès par arme à feu en 3 ans.
Mon Dieu.
C'est en face d'une école, hein, une école primaire. Et donc, le petit jeune sur votre plateau, là, il a dit qu'il fallait envoyer CRS, tout ça et tout. Ça a été fait, ça. Ça a été fait. Ah. Mais c'est fait sur un temps, sur 15 jours, 20 jours, un mois. Après, tout le monde s'en va. Et tout le monde se réinstalle aussi. Mais là, c'est le problème, c'est vraiment cette DZ Mafia. Ce sont des gens sans poids ni loi. Et donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter en réalité. Et en réalité, pourquoi le maire a été comme ça menacé, c'est parce que sa police, très bonne police, qui fait du harcèlement presque 24 heures sur 24. Mmh. Ça veut dire que plus personne, de moins en moins de clients, et surtout, quand vous sortez de ce quartier, vous êtes contrôlé automatiquement. Voir si vous avez acheté, et là, si vous avez acheté, je vous promets, là, c'est la fin de votre job, tout ça et tout, parce que bon, voilà, ils vont téléphoner à l'entreprise, ils vont, voilà. C'est une nouvelle méthode, c'est pour ça que c'est au contraire, c'est du bon travail qu'il a fait, et avec les moyens qu'ils ont. Donc voilà, c'est plus efficace que d'envoyer sans CRS pendant un mois, et voilà.
Mais en fait, Thierry, ce que je voulais dire, c'est que je vois tout à fait le boulot qui a été fait. Je l'ai dit, j'ai été directeur de cabinet à Villejuif. La police municipale a harcelé les points de deal. On a réussi à enfermer. Et quand c'est monté en pression, il faut absolument que l'État central monte du soutien à ce maire.
Que l'État monte quel soutien.
Sauf qu'Antoine, une fois que les CRS s'en vont, les points de deal revient parce que c'est un peu la stratégie.
On va recruter des CRS. Il faut recruter des CRS.
On ne pourra pas en mettre partout. Olivier.
Ouais, mais attends, laissez-moi terminer mon raisonnement.
Quand la police nationale est partie, c'est l'élu local qui se retrouve.
D'accord,
mais
laissez-moi terminer mon raisonnement.
À un moment donné, il faut lui montrer qu'on le soutient.
Oui, d'accord. Sauf que ça dure un temps. Ça, on l'a fait quand on a organisé des opérations place nette, les CRS arrivent, etc. On fait le ménage. Pardon, mais 3 semaines après, le point de deal revient. C'est-à-dire qu'à mon avis, cette stratégie semble atteindre ses limites. C'est-à-dire qu'il faut de la présence tout le temps, mais c'est pas des CRS. Il faut de la PJ, il faut des enquêtes. Si on veut arrêter les gros bonnets et pas simplement ceux qui sont en bas des cités à regarder qui arrive et à dîner. C'est un travail en profondeur. Moi, je trouve que les CRS, c'est spectaculaire ce que tu nous racontes, mais je suis sûr qu'il y avait les Juifs. De nouveau, il y a les points de deal parce que les CRS sont pas restés.
Bien sûr, mais en fait, c'est force doit rester à la loi. C'est une façon de l'État central de montrer qu'on n'abandonne pas.
Le sablier aussi, c'est qu'à un moment donné, exfiltrer un maire avec la mairie de chez lui, c'est aussi montrer qu'on a renoncé.
Michael Delafosse, il a raison de citer Karim Bouamran, parce que Karim Bouamran, il a éradiqué 7 points de deal, tous les points de deal de Saint-Ouen, de sa ville, en coopération étroite avec la région et Valérie Pécresse d'ailleurs. Et il y a des parlementaires qui ont fait un rapport sur comment on éradique des points de deal dans une ville en citant la méthode Saint-Ouen, qui montre que quand il y a une vraie coopération politique, c'est pour ça que je cite Valérie Pécresse, entre les élus et entre les collectivités, quels que soient les échelons, bah ça marche, on arrive à avoir un niveau de présence suffisant. Donc il a raison, Michel Delafosse, quand il dit le maire a besoin de pouvoir donner son avis sur les commerces, de pouvoir coopérer avec les autres collectivités. Oui, bah oui, mais en fait c'est ça la solution. Et c'est vrai que quand on demande, oui, mais nous au GG, c'est trop facile de dire, ok, c'est quoi la mesure phare, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah non, c'est plus compliqué que ça. C'est tout un rapport de la présence publique dans la collectivité. Où est-ce qu'est la place du maire dans une ville VS, où est la place du maire?
Sauf qu'il y a des maires. Et dans la répression, il y a le volet des consommateurs aussi, quoi. Mmh. C'est quand qu'on s'attaque aux consommateurs?
Oui, mais ça, si on légalisait le cannabis, on s'enlèverait bien des problèmes.
Ah oui, bah voilà, quoi.
Oui. Enfin, le problème, c'est que le trafic est
par ailleurs,
ça, c'est la solution de facilité quand tu fumes, mais quand tu fumes pas, tu peux dire aussi qu'on peut s'attaquer.
La drogue dure, c'est une addiction. Il y a des gens qui, après une prise, sont complètement malades et addicts. Ces gens-là, ils ont besoin d'un traitement, ils ont pas besoin d'une garde à vue.
Flora, si on légalise la prostitution, on met fin au réseau de prostitution. C'est le même raisonnement
que
t'appliques au
cannabis. Ça, je suis d'accord, c'est pas le sujet.
De dire qu'il faut légaliser pour rendre le truc normal.
Ce que je dis, c'est qu'on perd beaucoup de temps à gérer un problème qui n'est pas un problème, sachant que l'Espagne qui a légalisé le cannabis,
c'est un problème.
Oui, bah chez les mineurs principalement, et l'Espagne qui a légalisé le cannabis encadre mieux la protection des mineurs que nous.
Le cannabis, c'est pas un produit.
C'est ça que tu me dis.
Non, mais c'est pas un produit.
Si on veut se concentrer sur les trafics qui sont très dangereux, et ben on faut arrêter les trafics. Il faut arrêter de perdre du temps et de la force sur des trafics qui ne sont pas dangereux.
Bah, le cannabis peut être dangereux, je suis désolé.
Le cannabis est très dangereux sur les mineurs.
Chez les jeunes,
c'est très dangereux chez les jeunes. Et il est mieux encadré dans les pays où c'est légal.
Thierry était avec nous, merci d'avoir appelé au 32-16. Mais la légalisation du cannabis n'a résolu aucun problème dans tous les pays qui ont légalisé.
Mais c'est pas vrai. Par exemple, en Espagne,
la mafia se reporte sur autre chose.
Je vais vous donner un exemple.
Par exemple, c'est aux Pays-Bas. Qui est quasiment un état
un précurseur en la matière,
un narco-état, voilà, cherchez l'expression. Les Pays-Bas, pourtant, on a le droit de fumer.
En Espagne, par exemple, pour acheter du cannabis, il faut sa pièce d'identité, ce qui est totalement normal. Pour avoir sa pièce d'identité, il faut être inscrit dans un magasin qui vend du cannabis, et il faut être parrainé par une autre personne. D'accord. Qui a donné sa pièce d'identité.
Le trafic est toujours là.
Si un jour quelqu'un parraine un mineur ou achète pour un mineur et qu'il ait pris la main dans le sac, il n'a plus jamais le droit d'acheter de sa vie entière. Donc je peux vous dire qu'il n'y a aucun fumeur qui va prendre le risque de parrainer un mineur ou de
mais
voilà.
Et
donc
le marché parallèle
grâce
n'a pas
à cette
disparu.
Mesure très simple.
Mais non, Flora.
Mais bien sûr, la vente des mineurs a baissé. Pareil, aujourd'hui c'est ridicule. Flora. On fait de la sensibilisation dans les collèges et les lycées, c'est un truc qui est interdit. On est complètement hypocrite.
Non mais Flora. En Espagne, les mineurs, ils fument toujours du circuit parallèle, quoi. Hein.
Le marché parallèle n'a pas disparu.
Il y a un circuit officiel, mais il y a un circuit parallèle. Mais la contrebande de tabac en France n'a pas disparu. Est-ce que pour autant, il faudrait dire, on vend les cigarettes à 1 euro parce que de toute façon, il y a une contrebande? Non. C'est la même logique.
Pour l'instant,
notre problème, c'est les mafias et tout ce que ça génère en termes de violence. Et quand tu nous dis légaliser en Espagne, c'est une façon de contrer les mafias. Je te réponds non, parce qu'il y a encore un circuit parallèle du cannabis tenu par les mafias en Espagne qui alimente les mineurs qui n'ont pas le droit d'aller au coffee shop. Voilà, simplement.
On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que la France se mexicanise? Qu'avez-vous répondu? Eh bien, vous avez dit oui à 90,4%. Dans un instant, on accueille Anaïs Sens, c'est le on s'en fout, on s'en fout pas. Le OSEF, quoi, sur RMC, RMC Story, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
9h43, la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Flora Guebali, Didier Giraud, Antoine Dierce. Et puis, vous le savez, cette semaine, on vous fait gagner un magnifique séjour de 2 jours avec nuit d'hôtel pour 4 personnes au parc Astérix. C'est un séjour familial, 2 adultes, 2 enfants. L'occasion de profiter des attractions estivales du parc pour cet été gaulois. Pour remporter votre séjour au parc Astérix, vous envoyez parc au 732-16. Parc au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
Moi, j'y suis déjà.
Anaïs Sens,
moi je suis figurant là-bas.
C'est Didier Giraud. Allez, Anaïs Sens vous a rejoint, c'est parti pour le OSEF.
Tout l'été.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'interruption du concert de Barbara Butch par des militants insoumis à Grenoble, vous savez les GG. Bien, Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, a condamné, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée bien sûr, a condamné les insultes, mais réfute les accusations d'antisémitisme. Écoutez, c'était ce matin sur BFM TV au micro de Marie Chantret.
Je ne serai jamais d'accord, ni avec les insultes, ni avec des jets de projectiles s'ils ont existé.
Ils ont existé, Mathilde Panot.
Je ne serai,
Ils ont existé.
Je ne serai jamais d'accord avec le cyberharcèlement d'une personnalité. Mais je ne suis pas non plus d'accord pour qu'on commence à expliquer que ce serait de l'antisémitisme. Lorsque je soutiens Barbara Butch face au cyberharcèlement de l'extrême droite, cela démontre bien que nous ne nous en prenons pas à la personne et encore moins à la judéité de la personne.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Didier.
Par définition, ce que dit Madame Panot, on s'en fout.
Bon. Antoine.
On s'en fout pas.
Flora.
On s'en fout pas parce que la différence entre ce qui s'est passé avec Barbara Butch ce week-end et d'autres événements, c'est que c'était à l'appel d'un élu LFI. Donc c'est la France Insoumise qui a organisé l'agression verbale et physique d'une DJ. Donc un parti politique, faut juste dire les termes quoi, un parti politique a organisé l'agression physique et verbale d'une artiste. Et ce pourquoi? Parce qu'elle est juive. Parce que apparemment, donc elle a signé une tribune contre l'antisémitisme. Ouh, quel crime! Apparemment, elle a dit sur ses réseaux sociaux que la haine c'était mal et que l'amour c'était bien. Ouh, quel crime! Et donc du coup, ils ont décidé de l'agresser physiquement et verbalement. Elle a soutenu une loi qui était contre l'antisémitisme. Et puis après, elle a fait une vidéo en disant « Je connais pas le contenu de la loi, juste je voulais être contre l'antisémitisme. » Et on va dire qu'il y a pire comme crime. Ce que ça dit surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que LFI ne veut pas nommer l'antisémitisme de certaines personnes de la société civile. C'est que LFI organise l'antisémitisme. Et donc, on a franchi quand même un cap dans la fascisation de ce mouvement, qu'il est urgent de condamner et d'exclure de toute conversation sérieuse sur l'avenir de notre pays.
Antoine.
Au même titre que le RN.
J'aurais pas dit mieux, c'est très lucide, très clair. Barbara Butch, moi je l'ai vue à Dunkerque il y a quelques mois. Je voulais aller voir. C'était un concert gratuit, je suis allé voir.
Elle s'est fait connaître lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Et, ouais.
Exactement. Au-delà de toute logique idéologique, je suis allé voir. C'est correct, sans plus. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que la gauche en a fait une idole, une star, alors que c'est une artiste moyenne. C'est pas brillant ce qu'elle fait. Et ce qu'il faut voir, et c'est ce que Flora vient de dire. C'est qu'en fait la gauche
critique musicale.
Pourtant elle remplit les salles. Hein.
Mais non, elle remplit pas les salles. Attendez. Son succès, c'est exactement ça. Non. Son succès est moyen.
De toute façon, c'est pas
son
la question.
Bon, bah là, la question n'est pas savoir si elle a son succès mérité ou pas.
C'est exactement là où je veux en venir. C'est que la gauche en a fait une idole, une star, parce qu'elle correspondait.
Parce qu'elle a été beaucoup attaquée pendant la cérémonie d'ouverture. Enfin, après, souviens-toi.
Parce qu'elle est homosexuelle, parce qu'elle est grosse, et donc il fallait la défendre. Mais hop, bug dans la matrice de gauche. Elle est d'origine juive. Et là, l'idole s'effondre parce qu'une partie de la gauche est devenue antisémite et finit par manger ses anciennes idoles.
Elle a été soutenue par Raphaël Glucksmann, par la maire de Grenoble, hein, puisque c'était l'invitation de la municipalité grenobloise qui est de gauche. Donc en fait, on voit une fracture, surtout à gauche, béante là, qui s'exprime.
Et puis pour compléter, j'aimerais bien aussi que les champions du monde... Les champions du monde de la pétition, on les a pas entendus là.
Bah ici, il y a une pétition, justement.
C'est pas les mêmes que ceux qui
Il y a 300 personnalités qui ont signé une tribune.
Attendez, il y a une question que je me pose, Anaïs. Est-ce que Juliette Binoche
Elle signe toutes les tribunes. Isabelle Adjani, Juliette Binoche, on les a pas entendus. Elle est assez courageuse.
Allez voir sur Spotify le peu d'auditeurs de Barbara Butch, vous comprendrez que c'est un phénomène médiatique.
Mais Barbara Butch, elle n'est pas chanteuse, elle est DJ.
Oui, c'est un phénomène médiatique.
Et puis, c'est pas la question. On enchaîne. C'est une artiste de scène, c'est pas une artiste de plateforme. Bon, les GG. Cela ressemble à un mauvais polar. Si des membres de l'équipe municipale se seraient rué en kiosque début juin pour acheter des centaines de numéros d'un journal local afin d'étouffer une affaire de viol. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
C'est ce que dénonce en tout cas Reporters sans frontières et l'hebdomadaire régional en question qui s'appelle L'Essor Savoyard. D'après les buralistes de la ville interrogés par RSF, il y aurait eu un afflux soudain de mystérieux clients avec un fort appétit pour le journal. Ils décrivent une véritable razzia. Hein. 20 exemplaires vendus par-ci, 50 par-là. Et pour cause, figurait dans l'hebdomadaire le témoignage d'un homme accusant de viol le premier adjoint de la mairie. La ville conteste ces accusations, mais l'élu a quand même été placé en retrait de ses fonctions par le maire et ancien ministre Antoine Armand. Didier ?
Bah, je me dis en lisant cette histoire qu'on n'est pas très loin des barbousses qui vont péter les rotatives quoi. Hein. On ça nous ramène dans un passé glauque de notre histoire et quand on en est à acheter tous les journaux. Je trouve qu'on est un peu stupide parce que l'affaire, un jour ou l'autre, elle sort dans le monde moderne où l'on vit aujourd'hui. L'affaire, elle sort. La preuve, on en parle ici. Et d'avoir acheté tous les journaux, ça n'a pas d'effet. Mais,
bah si, ça a un effet pour les finances du journal, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est difficile de vendre des journaux.
Ça a un effet local et périodique, mais l'affaire, elle sort quand même. Et je pense qu'on est quand même loin de la liberté d'expression, là, quand même.
Antoine, t'y crois ou pas, cette histoire,
en fait, pardon, ne jamais croire au complot, toujours croire à l'incompétence. Oui. C'est une jeune majorité, le maire vient d'être élu, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de passé politique, un maire macroniste.
Et toujours,
à un moment, tu te dis dans une équipe, ah, ça va sortir demain. Et il y en a un qui dit, on n'a qu'à aller acheter tous les journaux. Oui, et normalement, il y a un vieux politicard, un vieux briscard de la politique qui dit, mais non, les gars, c'est une connerie, votre truc, le faites pas. Sauf que là, manifestement, il n'y a pas de vieux là. Et ils l'ont fait. Donc, c'est pas des barbouzeries, c'est juste de l'incompétence.
Non, mais.
Florin.
C'est étonnant que quand on suspend un maire, on veuille étouffer l'affaire. En fait, il n'y a pas à étouffer une affaire.
Ça, au contraire, c'est tout à leur honneur.
Non, mais je comprends. Florin a raison. Si le maire a suspendu lui-même son premier adjoint, quel était son intérêt de cacher l'information?
Donc c'est puisqu'il a réagi.
Donc ça veut dire que
moi je pense que c'est pas lui, mais l'entourage de l'accusé de viol, ancien premier adjoint.
Pardon, mais moi je crois pas à cette histoire.
Moi je n'y crois pas.
Pardon, je crois pas à cette histoire.
L'achat
il a sans doute eu lieu parce qu'effectivement tout d'un coup tu cites dans les kiosques
habituellement organisé par la mère.
Habituellement tu vends deux numéros, t'en vends 50, effectivement il s'est passé quelque chose, mais je ne crois pas à l'achat par le maire puisque le maire lui-même a suspendu son premier adjoint, donc de toute manière l'affaire elle est connue, donc je trouve que c'est pas très clair. Je trouve qu'ils n'ont pas fait la démonstration que c'était le maire qui avait demandé à ses équipes qu'on achète le journal.
C'est pour ça que Antoine Armand démonte.
Bon, les GG, il a raison, Flora.
Avis aux célibataires. Est-ce qu'il y en a autour de cette table ? Bon, je lève le doigt.
Ouais.
Okay. En fait, c'est un sujet pour Anaïs.
Allez, je suis solidaire.
Et Antoine, l'été est propice aux rencontres, les GG. 52% des célibataires misent tout sur l'été pour trouver l'amour, selon une étude Bumble de 2023.
Percer, Anaïs,
j'espère qu'elle a encore un petit peu d'actualité.
Sauf petit top avec la tapisserie de mes grands-parents,
mais,
là, ça...
Ah, mais tu connais rien.
Excuse-moi,
je suis une attaque sans
précédent. Sérieux, mes grands-parents avaient la même tapisserie dans leur chambre.
Critique mode, c'est bien
qu'on en plus. Avec tes chemises à fleurs, on en parle. Bon, Flora, tu t'en fous ou pas?
Ouais.
Didier.
En fait, non, mais juste un petit commentaire quand même. Anaïs nous fait un sujet célibataire parce qu'elle en profite pour passer des petites annonces aux auditeurs des GG. Et en plus, elle nous cite une étude de 2023 à l'appui, mais on est en 2022.
Merci Anaïs.
Mais parce que
on est dans l'actu là.
Actu chaude.
Non, les mœurs sont
parce
pas forcément.
Je vais vous raconter les coulisses. Anaïs m'a dit, j'ai un bon OSEF surprise, tu vas voir, ça va faire réagir. Alors en fait, ça te fait réagir toi.
Et moi, je suis
dans les 52% des
célibataires.
Je vais te ramener un retour de terrain la semaine dernière quand il y avait 46 degrés sur les plages. Normalement ça drague moyen quoi.
Ah bon, pourquoi?
Les auditeurs calmos, des GG, envoyez vos déclarations à Anaïs.
Écoutez les grandes gueules, ça s'appelle le Wonder Love, cet engouement pour le dating en été. Alors pourquoi on est plus apte à faire des rencontres l'été, Antoine? Parce que selon l'application, on serait plus à l'aise avec notre corps.
Pas du tout en fait. C'est juste que tout le monde est habillé plus léger, que t'as rien à faire.
Et alors ça joue.
Évidemment, t'es en hiver, tu croises la petite demoiselle, elle a une grosse doudoune, un bonnet, un truc. Et là, t'es en été, elle a une petite jupe.
La goutonnée. Carrément.
Ah bah oui.
La saison est plus propice.
Antoine, c'est les vacances. Crois le manque de bouchons qu'il y avait ce matin sur le périph, je pense qu'il y a plein de monde qui a pas grand chose d'autre à foutre que draguer.
C'est mieux comme les vacances, l'amour de vacances.
Vous mais en avez
attention,
eu
Anaïs,
des amours
de vacances en général, ça
reste éphémère. Bon, je vous capterai la semaine prochaine.
Ah bon, elle donne sa destination.
Et vous pouvez la joindre au 06 09.
Alors, de 9h à midi, je serai sur cette plage.
Et on se retrouve au Figaro le soir à partir
là,
de 22h.
Il va y avoir des bus entiers qui vont converger, tu vas voir.
Bon, vous avez compris qu'Anaïs attend les célibataires cet été en Gironde. Voilà.
Je crois qu'il va déjà attirer les hommes mariés.
Alors justement, puisqu'on parle de la Gironde, et là, on va moins rigoler, parce qu'en Gironde, il y a eu un drame hier. Il y a eu encore deux sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en intervention dans un feu qui s'était déclaré dans une zone périurbaine près de l'aéroport de Mérignac. Et puis, il y a ce qui se passe également dans le Var, avec cet incendie toujours pas maîtrisé du côté de notamment de Cotignac. Est-ce que en ce moment on est en train de vivre l'été de tous les dangers? Êtes-vous plus vigilant? Est-ce que vous faites attention? J'entendais le maire de Cotignac qui se plaignait qu'il y avait encore des randonneurs dans la forêt alors que c'est interdit. Donc est-ce que vous êtes vraiment vigilant cet été? On en parle avec vous sur RMC, RMC Story dans un instant.
RMC 9h midi. Les grandes gueules.